RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique, bienvenue à tous. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors ensemble, nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Mais tout de suite, notre premier invité est Xavier Emmanuel-Huy. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes fondateur du SAMU Social. Vous êtes ancien secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'urgence. Et vous êtes aussi cofondateur de Médecins Sans Frontières. Donc avec vous, on va parler donc bien sûr de l'actualité, puisque des migrants. Et il y a quelques semaines, avec d'autres anciens ministres et secrétaires d'État, vous avez écrit à Emmanuel Macron, vous lui avez écrit pour lui faire part de votre désapprobation à propos, je cite, du tri inadmissible des étrangers dans les centres d'hébergement d'urgence. Alors bien sûr, on va en parler parce que l'actualité, c'est le président de la République qui était à Calais. Il parlait devant les forces de l'ordre et c'est un peu à eux qu'il s'est aussi exprimé, puisque des forces de l'ordre sont accusées de brutalité, de destruction de matériel, comme des bâches, comme des couvertures de la part d'associations. Emmanuel Macron qui affirme que des sanctions seront prises si les faits sont avérés, mais que si les policiers étaient diffamés, les auteurs d'accusations seront poursuivis pour diffamation. On l'écoute.
Aucun manquement à la doctrine, à vos règles d'emploi qui sont formalisées et à la déontologie qui organise votre action, ne sera tolérée. Et si manquement il y a, les sanctions seront prises. Je suis extrêmement attentif lorsque l'action des forces de l'ordre est mise en cause et lorsque l'on parle de violence policière. D'abord, il existe des voies de recours qui sont ouvertes par la loi à tout requérant. La saisine directe de l'inspection générale de la police nationale ou celle de la justice via le procureur de la République territorialement compétent. Que ceux qui assistent à des scènes telles qu'ils les commentent, les dénoncent et déclenchent de telles procédures. Ou alors, de fait, ils se rendent coupables de n'être que des commentateurs du verbe. Il faut agir.
Alors il y aura une fermeté d'un côté comme de l'autre, hein, ceux qui dénoncent ou ceux qui font ces brutalités-là. Vous les connaissez ces associations, vous avez été cofondateur d'une que je viens de citer. Médecins Sans Frontières. Donc est-ce que vous avez pu assister ou des gens de confiance vous ont dit effectivement qu'il y avait eu des brutalités policières face à des migrants?
J'ai pas assisté et donc mon témoignage direct je ne peux pas le dire, mais des gens de confiance de Médecins Sans Frontières, ils me l'ont dit. Enfin, on peut le croire, vous savez. Et
pourquoi il y aurait ces violences-là de la part de la police, d'après vous ?
C'est plutôt des administrations policières, des administrations qui sont conservatrices, xénophobes, et il y a une tendance au rejet. Je ne suis pas forcément très étonné. Eh bien, je suis content de la parole de Macron, qui dit il faut que ça s'arrête. Si ça a existé, on arrête. Ce qui veut dire, on sera attentif. Moi, j'en accepte l'augure, on verra bien.
Oui, oui, oui.
Je veux dire qu'il y aurait des policiers qui réagiraient à des réflexes personnels, épidermiques, racistes, finalement, pour s'en prendre à des migrants.
Je vous retourne la question, à votre avis. C'est possible?
Vous pouvez essayer de me retourner la question, mais comme c'est pas la règle du jeu, je ne vais pas vous répondre. Mais
d'accord. N'essayez pas de me coincer non plus. Il est possible.
Non, je cherche pas à vous coincer. J'essaye de.
Non, mais bien sûr que c'est.
Mettre les choses vraiment au clair.
Que c'est possible qu'il y ait des réactions épidermiques, de rejet et tout. Enfin, vraiment. Ouais. Et donc, faut donner des règles, des lignes de conduite. Dans ça, faut pas faire ça. À partir de là, on verra bien une amélioration. Mais bien sûr que on a tendance devant l'étranger, puis surtout il y a l'image des migrants, des immigrants, c'est des gens dangereux, il y aura des islamistes, ces gens qui vont nous envahir, il y a qu'à regarder ce qui se passe à Cologne. Si vous voulez, il y a tout un baratin autour de ça. Donc il peut y avoir des réactions de rejet, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, si c'est cadré, peut-être que ça s'arrangera.
Vous avez donc écouté son discours dans sa totalité. Donc à la fois il y a du en même temps très macronien, c'est-à-dire en même temps on tente d'être humain, mais une fermeté aussi parce que, et vous connaissez parfaitement la phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais en prendre sa part, puisque c'était la suite de la question qu'on a souvent oubliée.
Mais la part qu'on en prend, il faut bien le faire. Il l'a dit en deux temps.
Oui.
Ben, qui peut être contre ça? Ce que je crois, c'est qu'il faut des concepts très clairs. Les gens arrivent, il faut les accueillir.
Oui.
Les accueillir, il faut les mettre à l'abri de la pluie, des éléments.
Oui.
Et éventuellement faire un bilan, soigner. Ils ont traversé tellement de périls. Oui, mais il faut savoir que cet accueil-là doit être dynamique. On ne reste pas dans ces camps. Il faut les faire sortir tout de suite. Avec l'OFPRA, de dire, toi, tu peux rester. On a examiné ce dossier. Et toi, il faut que tu rentres. Parce que c'est pas ça qu'on peut t'offrir. Donc, si vous voulez, il y a des réfugiés de guerre, il y a des réfugiés qui fuient des dictatures, qui fuient des climats, et ça, faut faire tout son possible pour les accueillir. Les autres, ceux qu'on renvoie chez eux, qu'on appelle à tort migration économique, hein, c'est-à-dire leur place n'est pas en Europe, on les raccompagne pas comme des sacs de patates, on les accompagne, on les renvoie chez eux, on regarde comment on va développer, parce qu'ils vont revenir, si vous voulez, ça sera des allers-retours comme ça. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Faut accueillir les gens. C'est de tout temps, les gens qui sont en péril, il faut leur porter secours. Et puis après, on les fait sortir, on dynamise pour laisser de la place aux autres et puis dire, voilà ce qu'on va faire avec toi.
Donc vous n'êtes pas de ceux qui disent aujourd'hui accueillons tous les migrants à bras ouverts et autant qu'il en viendra. Non mais certains le disent, vous le savez. Vous êtes d'accord pour dire qu'on peut pas accueillir tout le monde. Vous êtes d'accord pour dire donc qu'il faut faire des choix, qu'il faut sélectionner.
Écoutez bien ce que je dis.
Oui.
Il faut faire un tri.
Oui, j'ai bien oui. Mais pas n'importe quel tri, vous dites aussi. Mais finalement, c'est aussi ce que dit aujourd'hui le président de la République, c'est aussi ce que dit le gouvernement. Donc qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? C'est précisément aujourd'hui la manière dont le tri est fait qui ne va pas?
C'est la manière dont on accueille, c'est la manière dont on projette le tri, le triage. Et puis, la clé ne se trouve pas en France. Elle se trouve en Europe, à l'Europe. Il faudrait qu'en Europe, tout le monde joue le jeu. Que l'Angleterre joue le jeu. Qu'elle prenne sa part du fardeau. Regardez l'Europe.
Une partie de l'Europe de l'Est se referme.
Bien sûr, l'Europe de l'Est, il n'y en a pas question. Ceci dit, quand ils étaient sous le joug soviétique, l'Occident les accueillait à bras ouverts. Mais ils ont oublié. Les pays n'ont pas de mémoire. Si l'Europe est en train de se suicider avec le problème des migrants, parce que c'est un problème planétaire. Les migrants vont migrer, si j'ose dire, c'est leur boulot. Il va y en avoir.
Ouais, on va en reparler de ça parce que fondamentalement c'est très important. Mais peut-être si on veut rester sur Frédéric, peut-être
oui, sur le concret.
Sur le concret.
Parce que c'est d'ailleurs quand vous étiez au SAMU social, c'est ça le quotidien aussi. C'est l'aide, c'est l'assistance.
C'est nos frères, vous savez, nos frères humains. Ils sont pareils que nous, ils souffrent pareil, et donc faut accueillir. Comme ça.
Alors sur un plan extrêmement concret, le président de la République aujourd'hui à Calais a annoncé une décision pour décharger les associations d'une partie de la logistique liée aux migrants. On va l'écouter.
Nous apportons tous ces services, mais il y en a un aujourd'hui que nous n'apportons pas encore. C'est l'accès à la nourriture au repas, qui est assuré aujourd'hui par des associations. Alors je vais vous le dire très clairement. Nous allons le prendre à notre charge. Mais nous allons le prendre à notre charge de la même manière, de manière organisée, avec des points mobiles, sans tolérer aucune installation de campement illicite, et en incitant tous ceux qui sont prêts à financer cette prestation à contribuer à son financement dans le cadre organisé par l'État et avec l'État.
Est-ce que ça vous paraît important, ça ?
Oui, très bien. Ouais. Avec quel personnel aussi. Bien sûr qu'il faut faire tourner ces équipes mobiles. Il faut aussi l'hygiène. Il n'est pas dit, mais c'est qu'on puisse se laver et prendre des douches. Mais moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Simplement, il dit il faut que ce soit organisé. Et en effet, qu'il n'y ait pas tout le monde qui se précipite en même temps. Il faut qu'il y ait des roulements. Et qui va être responsable de ça? Et on va prendre le personnel. Ça sera bien obligé
Il a dit que ça sera en concertation avec l'État. Donc, c'est-à-dire que j'imagine qu'il pourrait y avoir une concertation entre les associations et l'État. C'est ce qui, il n'a pas tellement développé, mais c'est ce que il me semble avoir compris. Tout ça sera géré.
Et c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Mais moi, je voudrais que les gens soient à l'abri aussi et qu'on leur donne des soins. Je vous dis, la névrose post-traumatique, les gens qui ont traversé toute l'Europe, qui ont pris des périls. Regardez, la Méditerranée, c'est un tombeau. Depuis les années 2000, il y a 40 000 personnes qui se sont noyées. Et puis, il a raison aussi d'une part, parce que si on ne fait pas quelque chose d'organisé, c'est les passeurs qui gagneront toujours. Mm. Et si vous payez, vous passez dans quelles conditions? Donc moi, je pense qu'il faut organiser ça, il faut organiser l'accueil.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe est coupable en quelque sorte?
L'Europe
est coupable aussi parce que quand on voit ce qui se passe en Libye, on a l'impression que parfois, l'accusation était partie d'Alpha Condé qui avait dit cette accusation envers contre l'Europe parce qu'elle payait peut-être des pays, alors il ne disait pas lesquels, garder les migrants comme la Libye, et elle n'a pas la logistique, et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire...
Ou comme la Turquie.
Alors la Turquie, oui, c'est vrai que l'Europe a payé pour que
garde les migrants. Et continue à payer.
Absolument.
Donc si vous voulez, c'est pas organisé, il faut qu'il y ait des...
Non, mais est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi? C'est-à-dire qu'on paye pour que les migrants soient retenus les pays qui n'ont pas la capacité de le faire.
On fait l'autruche. On ne veut pas savoir. Or, c'est un phénomène qui va continuer. Donc, il vaut mieux, plutôt que de faire des murs, des barbelés, de demander à des gens peu recommandables, comme Erdogan, de garder les gens. Vous savez, des petits pays comme le Liban, ils ont 4 millions d'habitants, 1 700 000 Syriens. Et puis, vous pensez aussi que les migrations ne sont pas en sens unique. Un jour ou l'autre, les Syriens reviendront chez eux. Comme ont fait les Italiens au 19e et au 20e siècle, quand ça a été plus organisé, leur pays, ils sont revenus, ils ont participé à la force du pays. Il ne faut pas avoir peur des migrants comme ça, c'est le grand fantasme, de toute façon ils viendront. Regardez les États-Unis, ça a fait la force et la vigueur. Bien sûr que parmi les gens qui venaient d'Europe, de Russie, de Pologne, il y avait aussi des gangsters, hein. Mais bon...
Alors, vous parlez de la peur, et vous avez d'ailleurs de vous-même tout à l'heure évoqué Cologne, cette ville d'Allemagne où le 31 décembre 2015, des centaines de femmes avaient été agressées sexuellement par des demandeurs d'asile. Ça a sans doute terni l'image des migrants. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, sur cette question, une forme de non-dit? Est-ce que les réticences, aujourd'hui, et en particulier des opinions publiques, qui s'expriment assez clairement sur le fait qu'elles ne sont pas favorables à un accueil trop large, est-ce que le non-dit, ça n'est pas que ce sont des populations musulmanes dont il s'agit, et qu'il y a une peur autour de ça?
Probablement. On a un passé avec l'Algérie, en particulier, en France. Et tout n'est pas clair. Et pour Cologne, faudrait savoir qui a agressé. Moi, je vois pas des gens qui auraient pris tous les risques de traverser l'Europe, de traverser les Balkans, de traverser la Méditerranée pour venir agresser les femmes un soir de Noël. Je pense que c'est quel migrant ont fait ça? Où est la provocation? Pardon d'avoir des doutes. Enfin, c'est. Il me semble que ça jette l'opprobre sur l'ensemble des migrants. Oui, c'est bien. Mais je vous dis, il faudrait faire une analyse fine. De qui s'agit-il? L'Allemagne, par sa constitution, était obligée d'accueillir tous les gens qui demandent l'asile. Ils ont mis des millions, des milliards pour ça. Et ils ont cette constitution-là, on accueille. On fournit un logement, on fournit de la nourriture, et puis après on voit.
Oui, mais c'était pas forcément totalement désintéressé de la part de l'Allemagne non plus. Ils avaient besoin de main-d'œuvre.
Oui, mais de toute façon, maintenant, ils font le tri. Et ceux qui traînent à la chapelle, c'est aussi les bouteilles de droit d'asile.
Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Frédéric, qui, c'est vrai, est intéressante. C'est difficile d'y répondre, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur, une espèce de panique morale à l'idée de voir effectivement des personnes qui sont pas de la même confession?
Remarquez, si l'Europe était totalement chrétienne, ce qu'elle dénie d'ailleurs, on pourrait dire, ah oui, ça va être une guerre de religion. Je vous signale que au début du XXe siècle, les Italiens venaient, ils étaient chrétiens, la France était chrétienne, et ils allaient à la messe, ils étaient ruraux, les Polonais pareil, c'était des chrétiens, ils sont quand même fait tabasser, quand même fait lyncher, tout ça. Ouais. Ils étaient de la même religion. Donc, si vous voulez, ouais. Nuancer ça.
D'accord.
Oui, la peur de l'autre si différent. L'autre, ça va être une invasion. Si on fait attention, mais là c'est de la politique. Si on dit on est un pays laïque de chez laïque, je crois qu'il n'y aura pas ces problèmes.
Alors, dernière question en ce qui concerne l'immigration, vous l'avez dit, c'est un vieux phénomène, c'est vous qui le dites, c'est un phénomène anthropologique. Oui. L'immigration, il y en a eu des tragiques, il y en a eu des un peu plus apaisés. Aujourd'hui, vous qualifiez celle que nous vivons, vous la qualifiez de quoi et est-ce qu'elle risque de durer, non?
Oui, je dirais que c'est la tectonique des plaques. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en Afrique, où les problèmes de migration sont 10 fois ce qui se passe en Europe. C'est des populations entières qui changent. Il y a un rebrassage, une reconfiguration du monde. Le monde entier est sur les routes. Pas seulement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe. Le monde se définit autrement. On est après l'ère industrielle, après l'ère agricole. C'est autre chose qui est en train de se passer. Et je crois qu'il faut avoir des idées claires et accepter le monde qui bouge. Et nos sociétés sont aussi en train de se poser des questions sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles vont devenir. Regardez le travail, comme il est, c'est plus les mêmes définitions qu'avant. C'est
on est en mutation, on est un monde en mutation.
Ouais. Là, vous allez recevoir un syndicaliste, je suis d'après, oui. D'après moi. Vous lui poserez des questions sur le travail, sur les contrats, sur les protections. On change,
ouais.
Peut-être un petit mot de ce qui se passe dans les prisons, puisque vous connaissez bien l'univers carcéral. Oui. Vous avez été médecin-chef à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant à peu près 6 ans, entre 87 et 93. Les syndicats de gardiens de prison dénoncent leurs conditions de travail. Il y a eu plusieurs séries d'agressions, et en particulier ces derniers jours par des détenus radicalisés. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Quelle est la réponse à apporter à ce problème, qui est un phénomène, celui-là, des détenus radicalisés, qui est un phénomène nouveau et qui risque de s'amplifier?
Je crois, mais ça devient des bombes à retardement, de mettre ensemble des gens qui demandent qu'à tout faire sauter. Je crois qu'il ne faut pas avoir le réflexe « je fous en tôle ». Dire qu'il y a des peines alternatives. Il faut les connaître. Parce que les gens que vous mettez derrière des grilles, des gens jeunes souvent, vous en faites des enragés. Ça, c'est clair. Vous vous rendez compte, la pression, quand vous rentrez dans ces prisons, vous sentez la tension, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les gardiens aussi, ils sont des gens jeunes. Et ils écoutent la même musique, ils ont un peu la même culture sociétale. Et quelle formation on leur donne? Quelles espérances on leur donne? Je crois que la prison, elle vient du fond des temps. Évidemment, c'est une peine. C'est maintenir la disposition du juge, mais c'est aussi préparer la sortie et le soin psychique. 30% des gens qui sont dans les maisons d'arrêt ont des problèmes psychiatriques lourds, avérés. La prison a été mon école sur l'exclusion. J'ai beaucoup appris, beaucoup. Et l'exclusion, j'ai compris là ce que ça voulait dire. La distorsion du temps, le corps, ce que ça voulait dire, l'isolement. Le fait que le temps n'avance pas. On est toujours un présent qui se répète éternellement. Il y a des transformations psychiques, il y a cette violence qu'il faut savoir contrôler. Est-ce que la prison, c'est un établissement psychiatrique? Je ne le crois pas. Donc il faut peut-être remettre en question. La prison, c'est plus des culs de basse-fosse. Il faut réfléchir à la prison, comme on avait fait dans les années 70, où les grands, les intellectuels, et Michel Foucault en particulier, avait réfléchi là-dessus.
Et bien voilà, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique.
Alors je m'en vais.
Merci.
Mais c'était un plaisir. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes après un point sur l'actualité avec Philippe Martinez.
Merci.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, le secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on l'évoquait dans cette première partie avec Xavier Emmanuelli. Emmanuel Macron donc a prononcé un discours devant les forces de police à Calais, c'était ce midi. Il les a plus ou moins défendus contre les plaintes des associations de migrants en disant qu'il y avait peut-être des manipulations et des mensonges. Cependant, si les policiers étaient diffamés ou si ils étaient responsables de ces brutalités, ils seraient punis. Donc chacun en prenait en quelque sorte pour son grade. Mais il a surtout dit qu'il promettrait des primes de résultats aux policiers de Calais. Donc j'imagine que... Est-ce que vous applaudissez ou vous dites bah, attendez, pourquoi à Calais et pourquoi pas ailleurs ?
C'est surtout pourquoi il refuse d'augmenter le salaire des fonctionnaires en général, et parmi ceux-là, les fonctionnaires de police. Il y a un problème de pouvoir d'achat parmi les fonctionnaires, et donc il faut reconnaître leur travail, leur qualification, et les augmenter. C'est une vieille idée de M. Macron de promouvoir le salaire au mérite. Mais qu'est-ce que c'est que le mérite pour des fonctionnaires qui sont au service de l'intérêt général? Donc c'est ce genre de d'annonce qui ne correspond pas. Et
parce qu'on comprend quoi de résultat de
qu'est-ce
quoi
que c'est que le, ouais, le résultat qu'est-ce que c'est qu'un résultat sur quelle base? Et puis plus globalement, qu'est-ce que c'est que le mérite? Tous les fonctionnaires sont méritants.
Mais est-ce que ça n'existe pas, par exemple, dans certains établissements scolaires où il y a des encouragements financiers pour les enseignants à aller travailler dans une zone extrêmement tendue? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une cohérence à dire dans une zone difficile, tendue, où les risques sont plus importants, eh bien, il y a un encouragement financier?
Il y a deux problèmes. Il y a ce que je vous disais, c'est comment on reconnaît la qualification... Oui. Des fonctionnaires en général et des fonctionnaires de police. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui génère ces difficultés? Je crois avoir compris qu'il y avait, notamment dans la police, des problèmes d'effectifs. Donc réglons ces problèmes-là afin de renforcer des équipes dans des endroits qui sont certainement un peu plus compliqués. Donnons des moyens aussi matériels, parce que j'ai cru comprendre que de ce point de vue-là, il y avait de la vétusté. Voilà, c'est ça à répondre. Parce que sinon... comment va-t-on définir ce qu'est le mérite selon le quartier, selon la rue, selon la ville? C'est le principe de la division, alors que tous ces fonctionnaires ont la même mission, c'est servir les citoyens et l'intérêt général.
Mais c'est vrai que l'idée de la prime de résultats, j'en reviens là, effectivement. On pourrait en donner aussi pour les policiers qui sont dans les cités difficiles.
Mais pour quel résultat? C'est ça. Quel résultat? Qui fixe la mission, elle est simple. C'est assurer la sécurité des citoyens, quel que soit l'endroit où on habite, etc. Donc, renforçons les effectifs. Et c'est, je crois comprendre que depuis des mois et des mois, c'est ce que demandent les policiers. Renforçons les moyens mis à disposition, la formation, etc. Je pense que ça déjà réglera une partie des problèmes.
Alors, pour évoquer maintenant le sort des migrants, puisque vous en avez beaucoup parlé au cours de ces dernières semaines, vous avez qualifié
derniers mois même, je dirais.
Oui, plusieurs semaines, ça fait des mois. Vous avez qualifié de scandaleux le tri voulu par le gouvernement entre les bons et les mauvais migrants, avez-vous dit. Vous dites qu'il est du devoir de la France de les accueillir tous. Et je crois que vous avez même répété deux fois. Tous.
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 Sans exception, sans condition.
Écoutez, c'est les valeurs de la République et c'est la tradition de la République. Est-ce que on peut accepter, à notre époque, quelle que soit l'époque, mais encore plus à notre époque, de voir ce qu'on voit, ces images de migrants qui traversent les Alpes dans le froid, vêtus de... est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable? Comment on peut accepter que de les voir dormir dans la rue, sur les trottoirs, à Paris ou à Calais, par exemple? Donc, il y a un devoir d'accueillir dignement ces migrants. Ça ne représente pas des millions de personnes.
En Allemagne, ça a été 1 million, par exemple.
On parle de la France pour l'instant.
Oui, mais
donc ça ne représente pas.
Parce qu'à un moment donné, l'Allemagne a dit venez, vous êtes les bienvenus. Si la France fait la même chose,
mais il y a besoin. Premièrement, il y a besoin de rétablir la vérité. Ça ne représente pas des millions en France. Deuxièmement, il y a besoin là d'avoir une politique plus offensive à l'échelle de l'Europe et de ne pas tolérer qu'en Europe certains construisent des murs, maltraitent les migrants. Ça c'est du devoir du président de la République, puisqu'il aime parler beaucoup d'Europe. Eh bien, de ce point de vue-là, l'Europe a aussi besoin d'être exemplaire en la matière.
Et comment on s'en occupe? Comment on leur donne du travail? Est-ce que on a
Premièrement, il y a des besoins de première nécessité, les loger. Les soigner. Il y a des enfants parmi ces migrants. Comment on les soigne? Je vous disais, ça fait des semaines, voire des mois, que nous, on s'occupe de la question. Sous le gouvernement précédent, la CGT, avec d'autres organisations syndicales, avait mis à disposition des centres de vacances, de comités d'entreprise pour héberger ces migrants. Nous avions travaillé avec des associations d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue éducation, parce qu'il faut aussi parler éducation et formation. Voilà, ça, c'est des choses très concrètes que la CGT, avec d'autres, a initié. Eh bien, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? C'est une question de... Enfin, ce sont les valeurs de notre pays, et c'est pas nouveau. La France a toujours été une terre d'asile, et on peut remonter là à plusieurs années, plusieurs décennies même.
Pourquoi on ne le fait pas? Peut-être parce que les Français majoritairement ne le veulent pas, et que ceux qui prennent ces décisions se présentent à des élections.
Mais ça, c'est donc ce ne sont plus des valeurs de la République, ce sont des intérêts politiciens. Mais ça, nous, on n'est pas là...
Les responsables politiques sont aussi là pour faire ce que le peuple veut.
Écoutez, si on parle un petit peu social, il y a eu quelques réformes ces derniers temps qui se sont faites contre la volonté du peuple, au nom de d'autres choses. Donc, il y a aussi besoin d'impulser un certain nombre de valeurs, de politiques vis-à-vis d'un monde qui va mal, un monde qui va très mal, où c'est de la surenchère. On peut parler des États-Unis, des déclarations du président des États-Unis, etc., etc. Donc, il y a besoin que les politiques amène une contribution au débat. Sur d'autres questions, il y a eu des lois, des mesures qui ont été adoptées, alors que les sondages indiquaient que les Français n'étaient pas tout à fait prêts. On peut évoquer par exemple la peine de mort. Donc il y a besoin aussi d'éduquer. Et puis il y a besoin de revenir sur des questions sociales, parce que qu'est-ce qui fait peur? C'est aussi le chômage. Tous ceux qui disent à longueur de journée, depuis des années, que les migrants... C'est eux qui piquent le travail des Français. Et
Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, avait parlé de...
Travailleurs détachés
qui mangent le pain des Français.
Je dis tous ceux qui...
Donc vous le mettez dans le lot.
Tous ceux qui disent ce genre de choses engendrent ou cultivent cette idée qu'il n'y aurait pas la place pour tout le monde d'être accueilli.
Alors, autre déplacement aujourd'hui, très suivi, celui de la garde des Sceaux, non loin de Calais, Nicole Belloubet s'est rendue ce mardi à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où un détenu islamiste a agressé plusieurs surveillants la semaine dernière. Le directeur de cet établissement a démissionné de son poste lundi, mais l'agression a provoqué un vaste mouvement de mobilisation à l'appel des syndicats de surveillants de prison. Frédéric, il y a eu une autre agression, justement,
oui, il y en
aussi
a eu
cet après-midi.
Deux autres, je crois, depuis hier. Ouais. Et effectivement, les gardiens de prison expriment aujourd'hui de la lassitude à minima, de l'inquiétude, voire de la peur, et demandent à l'État de prendre des mesures. On va les écouter.
Il y a un gros problème d'effectifs en dessous de ce qu'on devrait avoir pour les surveillants, et de sureffectifs au niveau de la population pénale. Donc là, on ne joue pas à jeu égal.
Il y a un malaise profond dans cette profession. Les agressions, on en connaît tous les jours dans tous les établissements de France. Il y en a très régulièrement à un niveau qui devient insupportable.
On a l'impression que dans le service public, dès qu'il y a une difficulté, c'est le manque d'effectifs qui est invoqué.
Ça doit être une réalité.
Je vous pose la question, est-ce que c'est une réalité pure et dure, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de facilité à se retrancher systématiquement derrière un manque d'effectifs?
Il faut
ou de formation peut-être parfois aussi.
Il y a certainement des problèmes de formation, mais il y a réellement un problème d'effectifs. Moi, j'ai passé il y a quelques mois une journée au Beaumet avec tout le personnel. J'ai eu l'occasion de visiter, ils m'ont expliqué. C'était une journée par hasard, une agression, devant moi, de gardien. Et ils m'expliquaient qu'il faut s'occuper de plusieurs personnes à la fois, qu'on ne peut pas gérer les situations de certains comme la situation d'autres. Eh bien, ils sont confrontés, livrés à eux-mêmes, et donc il y a réellement un problème d'effectif. Il y a un problème, évidemment, aussi de formation, et puis... c'est en filigrane, hein, un problème de reconnaissance de qualification.
Xavier Emmanuelli, qui était là il y a quelques instants, pardon, parlait de la prison, puisqu'il a été médecin-chef dans une prison. Il disait aussi qu'il y a de graves problèmes psychiatriques en prison. Et justement, quand je parlais de formation, est-ce que des gardiens de prison sont outillés, on va dire, pour faire face à des êtres violents?
Est-ce que des personnes qui ont des problèmes psychiatriques doivent être premièrement dirigées vers la prison? Parce que là aussi, il y a...
C'est une bonne question, bien sûr.
Ah oui, mais il y a aussi la question des douleurs d'ordre, des sanctions, de la politique pénale en France, qui, dès qu'il y a un problème, on envoie en prison, puis après on voit ce qu'on peut faire. Oui, les personnels pénitentiaires sont confrontés à des prisonniers, des gens incarcérés qui ont des problèmes psychiatriques. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces gens-là doivent aller en prison ou d'abord aller dans des endroits où on les soigne.
Il y a sans doute une partie aussi qui développe des problèmes psychiatriques parce qu'ils sont en prison.
Certainement. Mais en discutant avec le personnel, ils sont souvent confrontés ou régulièrement confrontés à ce genre de problème.
Alors que demandez-vous aujourd'hui au gouvernement? Donc le message c'est quoi?
Il y a besoin d'écouter la revendication du personnel. Oui, là aussi, mais c'est valable dans toute la fonction publique. Il y a des problèmes d'effectifs. Quand on met à l'index les fonctionnaires, et c'est un refrain régulier, et on a beau avoir un jeune président, il répète les mêmes rengaines que ses prédécesseurs depuis, là aussi, des décennies. Il y a un problème d'effectifs. Il faut que la France se dote les moyens d'avoir des services publics et qui répondent à l'intérêt général, qui répondent au service des citoyens, et pour cela, il y a besoin de plus d'effectifs. L'intérêt général, ça ne doit jamais être considéré comme un coût, mais un investissement, que ce soit dans la pénitentiaire, que ce soit dans les fonctionnaires d'État. Je pense aux personnels hospitaliers aussi, qui ont des graves problèmes d'effectifs et qui sont très 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 mal dans leur travail.
On va venir aux ordonnances travail. Les syndicats qui étaient divisés n'ont pas mobilisé. Même Jean-Luc Mélenchon avait concédé qu'il avait perdu la bataille en déclarant Emmanuel Macron à le point. Dans le fond, est-ce que vous n'êtes pas fait une raison?
Je ne crois pas. En tout cas, faut que je change de visage. Alors, si je me... Non. Il y a effectivement un phénomène qui arrive régulièrement quand un nouveau gouvernement se met en place. Il y a en même temps une Assemblée nationale, une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Ceci dit, nous, ce qu'on constate, c'est que les arguments qu'on a développés tout au long de l'été... On les voit aujourd'hui. Je prends un exemple. Les ruptures conventionnelles collectives, qui n'étaient pas dans le programme de M. Macron, parce qu'il répète souvent « je dis ce que je fais » ou « je fais ce que je dis ». Les ruptures conventionnelles, il faut le rappeler, collectives, ça a été annoncé le 31 août, c'est-à-dire le jour où la ministre a annoncé ça au syndicat, puis tout de suite derrière la presse. Nous n'en avons jamais discuté. C'est le dernier décret qui est passé, juste avant Noël. C'est la première mesure qui est mise en application. Et moi, vraiment, il va falloir user de la salive, comme on dit, pour m'expliquer comment, en supprimant des emplois, on combat le chômage. Or, qu'est-ce qui se passe chez PSA? Qu'est-ce que il se passe chez Pinky et chez plein d'autres? On va supprimer des emplois. Point.
Sur cet aspect des choses, puisque on évoquait Jean-Luc Mélenchon, il avait déploré le manque d'engagement des syndicats dans les manifestations, dans la mobilisation contre la loi travail. Le député socialiste Luc Carvounas, qui est candidat au poste de premier secrétaire, veut reconstruire la gauche, mais il dit pas seulement avec les partis, mais aussi, entre autres, avec les syndicats. À la CGT, vous avez perdu un certain nombre d'adhérents. Je sais que le chiffre de 34% a été cité par le Canard Enchaîné, que vous l'avez réfuté, et que ce serait plus vraisemblablement 8%.
Non, c'est exactement... 1% et on n'a pas fini les comptes.
Tout n'augmente pas, tout diminue alors en fait. Là.
Mais, je dis, on n'a pas fini les comptes.
Ouais. Est-ce que l'avenir des syndicats ne passe pas par un engagement politique plus fort ?
L'avenir des syndicats, il passe dans le fait de s'adresser à la diversité du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Le monde du travail a changé, il y a des choses que nous n'acceptons pas la précarité, nous n'acceptons pas les petits boulots, etc., etc. Nous avons des interrogations sur ces nouveaux travailleurs, c'est peut-être les premiers de cordée, qui travaillent sans contrat, justement, à travers des applications. Ceci dit, c'est une réalité. Et donc, ces travailleurs-là, ils ont aussi des revendications des droits et l'avenir des syndicats, c'est de prendre en compte cette diversité et de s'adresser à tout le monde. Nous avons la prétention, même si je le dis, on doit faire des efforts de bien connaître le monde du travail, de bien connaître la situation de ceux qui travaillent, et elle s'aggrave de jour en jour. Eh bien, nous sommes sur notre créneau, si je puis dire, sur ces questions sociales.
Qu'est-ce que le monde qui arrive va nous retirer petit à petit ?
Je voudrais juste terminer sur la question que vous m'avez posée. C'est un peu facile, je trouve, pour un certain nombre de politiques qui ont subi quelques revers électoraux, le moins qu'on puisse dire. Je pense à ceux du Parti Socialiste, d'ailleurs. Ils n'assument même plus le nom qu'ils avaient il y a presque un an, de dire il faut maintenant qu'on ait un genre de grand Big Bang ou je ne sais quoi, pour syndicats, politiques. Chacun a sa spécificité. Et je pense qu'il ferait mieux de s'appuyer plus régulièrement sur l'expérience des syndicats. Par exemple, la CGT demande depuis, mais on n'est pas les seuls, la CFDT aussi demande qu'on ait une vraie réflexion sur le travail, sur le sens du travail aujourd'hui.
Donc, justement,
comment on s'intéresse à ce qu'on dit, on écoute ce qu'on dit.
À quoi va ressembler le monde du travail dans 10, 15, 20 ans?
Pour une part, il ne changera pas. Pour une part, il ne changera pas. Et donc, le travail a de l'avenir. Ceux qui ont prédit la fin
mais
du travail.
Mais des conditions alors de travail.
Par contre, oui, la relation au travail se dégrade. Il y a de plus en plus de salariés, de travailleurs qui sont mal dans leur travail. C'est-à-dire que on ne leur permet plus de bien faire leur travail. Et je passe beaucoup de temps dans les entreprises à discuter leur savoir-faire. Ils veulent le mettre en œuvre et au nom de la rentabilité de l'entreprise, y compris dans les services publics, y compris, je pense à l'hôpital par exemple là encore. Eh bien, on leur dit, d'accord, tu devrais faire comme ça, mais ça coûte trop cher ou c'est pas les objectifs de l'entreprise, donc tu vas travailler comme ça. Et ça fait mal parce que quelqu'un qui fait son travail en sachant que ça ne va pas fonctionner, qu'il va générer de la souffrance dans le milieu hospitalier, eh bien, ça crée de l'angoisse, ça crée des burn-out. Et voyez la réponse, par exemple, du gouvernement face aux arrêts de travail, aux nombreux arrêts de travail de personnel en souffrance dans la fonction publique, dans le milieu hospitalier, eh bien, c'est de les sanctionner en leur disant, eh ben, on va vous imposer un jour de carence. Donc le travail va changer. Pardon, avec le numérique. Eh bien, il faut que ces gains de productivité, cette facilité qui pourrait engendrer le numérique à bien faire son travail, eh bien, ça soit partagé entre les entreprises et les salariés, en augmentant les salaires, en réduisant le temps de travail, puisqu'il faut libérer de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, il faut conjuguer et efficacité économique pour les entreprises et efficacité sociale pour combattre le chômage et réduire les inégalités.
Bon, il nous reste guère plus d'une minute pour évoquer l'assurance chômage, vaste négociation qui a démarré il y a quelques jours, qui va se poursuivre jusqu'au 15 février. Vous avez 6 semaines au total pour vous mettre d'accord en principe. L'un des points durs, c'est la question de l'assurance chômage universelle, donc la possibilité d'être indemnisé pour les démissionnaires et pour les travailleurs indépendants. Est-ce que, au moins sur le papier, vous trouvez que c'est une bonne idée déjà ?
Si ces démissions ne sont pas forcées, si ces démissions ne sont pas forcées, oui, mais il faut trouver des recettes. Or, en supprimant les cotisations sociales, eh bien, on diminue les recettes. Et donc, faut quand même rappeler qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et vous voyez, quand j'entends parler de fraudeurs, etc., on ferait mieux de s'occuper d'indemniser, notamment les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont rien.
Merci Philippe Martinez.
Merci à vous.
La fin de cette émission et on se retrouve mardi prochain.
Oui, absolument. Mardi Roselyne. Prochain avec vous, Frédéric Rivière. Merci beaucoup Philippe Martinez et merci à Charlotte Tomaca et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. Merci.